Bonsoir à tous, bienvenue pour votre mensuel Rock'n'Roll Diaries, la reprise avec Fab. Salut Fab.
Bonsoir.
Salut Luc.
Bonsoir Ludo, bonsoir tout le monde.
Alors pour cette reprise, pour cette nouvelle saison, de quoi va-t-on parler ?
On va parler de voiture.
Ah bon ?
Bah oui, en voiture Simone. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul. Get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.
Allez, vous avez compris, on va parler de Nina Simone, Luc, Nina Simone.
Ou pas d'ailleurs, parce que cette blague était assez pourrie. Mais
Oui, mais il y a eu une chanson entre temps.
Oui,
peut-être qu'ils ont compris.
Oui, je ne suis pas sûr.
C'était quoi cette chanson d'ailleurs ?
Don't Let Me Be Misunderstood.
Oh, titre long.
Que tout le monde connaît par Les Animals notamment.
Et la version de Santana aussi.
Entre autres, mais c'est elle qui l'a créée. Alors, c'est pas elle qui l'a composée, mais c'est elle qui l'a créée, comme on dit dans le jargon musical.
On connaît et qui ont été aussi reprises par beaucoup de groupes et qui ont été popularisées.
Qui sont passées par la bouche de Nina et on en parlera tout à l'heure, notamment House of Rising Sun ou ce genre de choses.
Voilà, exactement. En attendant, on va commencer par le commencement parce que, avant d'être une chanteuse connue et reconnue, Nina Simone était une jeune petite fille.
Non reconnue.
Non reconnue. Mais
avant d'être connue, elle n'était pas reconnue.
Effectivement.
Voilà.
Fab est en forme pour cette rentrée.
On voit ça. Alors, on a un peu tardé avant de reprendre. On a poursuivi nos vacances et on voit que ça a porté ses fruits auprès de Fab qui est en grande forme. Donc, Eunice Kathleen Waymon, de son vrai nom. Donc, qui s'appellera plus tard Nina Simone, est née le 21 février 1933 dans la charmante bourgade de Tryon, en Caroline du Nord. Vous connaissez ?
Non, pas du tout.
Non, mais personne ne connaît en fait. En fait, elle est née dans une famille qui est plutôt religieuse et on verra que ça a une influence sur la musique, d'une maman qui est femme de ménage
et qui est plutôt strict au niveau de la foi et qui observe assez rigoureusement tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est religion. Et son papa, lui, qui s'appelle John, qui a une entreprise de nettoyage. Alors, il a une entreprise de nettoyage et il travaille à mi-temps comme coiffeur, barbier et des fois, il est chauffeur de camion pour gagner davantage d'argent.
Et tous les deux, ses parents sont pasteurs méthodistes aussi, exactement. Ce qui dit leur implication dans la foi. Enfin, c'est pas pour rigoler, c'est pas, ils vont juste, pas à l'église, c'est, ils sont carrément impliqués.
Elle est née dans les années 30, c'est ça?
33. Elle est née en 33, ce qui fait qu'en fait, elle a une sœur qui naît en 1929. En fait, c'est la sixième d'une fratrie de huit enfants. Et du coup donc le problème c'est qu'entre temps la crise de 29 passe par là, donc la famille sa mère en fait qui avait réussi à grâce à l'argent que gagnait son père à plus travailler au moment où Nina vient au monde, sa mère a repris le travail pour gagner un peu d'argent pour la famille. Son père lui il a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Et puis en plus il est malade, donc il a une intervention chirurgicale, ce qui fait que voilà, c'est dans cette situation où la famille a quitté le quartier un peu sympa pour aller dans les quartiers pauvres de la ville de Tryon que vient au monde Nina. Et très très vite elle va montrer des prédispositions pour la musique. À 3 ans elle joue du piano. La première chanson qu'elle apprend, c'est God be with you till we meet again. Donc, Dieu sera avec toi jusqu'à ce que nous nous croisions, nous rencontrions à nouveau. Ouais, ce qui place un petit peu le niveau religieux de la famille, comme l'a dit Fab tout à l'heure. Et elle a aussi des prédispositions pour le chant, et très vite, comme c'est souvent le cas, elle va s'illustrer dans la chorale de l'église. Elle va d'ailleurs donner son premier récital. Elle fait du piano, du chant, et son premier récital classique, elle va le donner à 12 ans.
Oui, parce qu'elle fait de la musique classique, en fait, au niveau piano. C'est vraiment une formation très, très classique qu'elle a. D'ailleurs, elle voulait être... après, dans ses mémoires, elle a dit qu'elle ne savait plus si c'était elle qui l'avait dit ou sa mère. Mais qu'elle voulait être la première concertiste noire des États-Unis. Il n'y en avait pas à l'époque.
Non.
Donc voilà, et elle avait vraiment les aptitudes pour ça, comme on va le voir dans la suite de son parcours musical.
Oui, et alors, petite anecdote qui va donner le ton pour la suite aussi. Quand elle a 12 ans quand elle donne ce premier récital et dans une église. Et ses parents, qui sont noirs, sont invités à aller au premier rang, et sont invités à laisser leur place à des blancs. Qui viennent s'installer au premier rang, donc ils sont invités à aller au fond de la salle. Et Nina, qui est sur scène, dit bah non, moi tant que mes parents ne sont pas au premier rang, je ne jouerai pas. Et elle obtient une cause.
Parce qu'on est en pleine ségrégation là.
On est
complètement
en pleine ségrégation, puis on va voir après que ça fait partie.
Là, on est juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on est dedans quoi.
Ouais, 55, hein, c'est ça.
45, là, au moment du concert.
Du concert. Ça va, voilà, on va parler tout à l'heure de son combat pour les droits civiques et c'est, ça part un petit peu de là. Entre-temps, elle est remarquée par un professeur de piano de sa ville qui s'appelle Muriel Massinovitch, qui va devenir sa deuxième maman, enfin. Sa maman blanche, Miss Maisie, et qui va créer un fonds spécial pour lui permettre tous les samedis matins pendant 6 ans d'aller prendre des cours de piano chez elle. Voilà, elle a déclaré plus tard que c'est Nina Simone, le premier jour où elle est allée chez Miss Maisie, elle a déclaré que c'était tellement beau qu'elle avait failli s'évanouir. Et elle faisait donc 3 heures de piano par jour. À cette époque, on va peut-être écouter un premier morceau d'ores et déjà.
Oui. Bon, on peut juste dire continuer un tout petit peu son parcours musical pour dire qu'à cette période, donc où elle prend des cours, donc elle est encore adolescente là, enfin préadolescente même, et déjà ces différents professeurs de piano qu'elle rencontre dans son parcours, ils atteignent leurs limites entre guillemets, c'est-à-dire à 12 ans, ils sont déjà là à dire, écoute, moi je peux plus rien t'apprendre, je t'ai appris tout ce que je savais, donc va voir ailleurs.
Miss Maisie à 12 ans lui dit, moi j'ai plus rien à t'apprendre, donc faut que t'ailles voir plus haut.
Et donc il envoie à New York la Juilliard School of Music, qui est un établissement réputé où ça marche bien pour elle, quoi. Elle finit major de promo, quelque chose comme ça. Enfin, elle est toujours en tête entre guillemets. Enfin, voilà, il faut vraiment voir Nina Simone au début comme une concertiste classique qui a un avenir tracé dans la musique classique et qui est destinée à être la meilleure, quoi.
Sur les morceaux que l'on va
changer.
Sur les morceaux que l'on va entendre, c'est elle qui joue.
Oui, ah oui, le piano systématiquement.
D'accord. Je crois qu'elle y rentre pas à la Juilliard, à la Juilliard School. Elle fait la prépa.
C'est à l'Institut Curtis après où elle peut pas oui, rentrer, pardon. Mais à la Juilliard, si elle y rentre, c'est légèrement moins prestigieux la Juilliard School, mais elle est finie première, donc elle est voilà.
Elle finit major de promo, et donc le fait qu'elle ne réussisse pas à rentrer ensuite à l'Institut
au top du top qui est à Philadelphie. Delphie, je crois, à l'Institut Curtis.
Elle va trouver un boulot comme photographe, enfin, comme assistante photographe d'un photographe à Philadelphie, mais elle va quand même réussir à prendre des cours personnellement qu'elle va payer avec celui qui aurait dû être son maître à la Curtis Institute, donc qui s'appelle Vladimir Sokolov, qui est un pianiste très connu.
Et l'Institut Curtis, pour revenir là, donc elle n'a pas été prise, je veux dire, parce que c'est sur sélection à l'entrée, or même que bon, elle avait toutes les prédispositions, et elle dira toujours que c'est parce qu'elle est noire. On ne saura jamais exactement, mais on peut le penser qu'à cette époque-là, effectivement, là, ayant atteint le top du top, on ait voulu la brider un peu, ce qui, j'allais dire, à la fois malheureusement a marché et heureusement pour ses auditeurs futurs, voilà, ça l'a amené à faire une autre carrière musicale dont on parlera donc après un premier morceau. Un deuxième morceau, oui, qui est I Love You Porgy. Voilà, on va en parler après.
I love you. Let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever, and I'll be glad. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. My man.
someday I know he's coming to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Poggy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go.
I love you, Porgy. Alors, Porgy qui est un prénom. I love you. Et pourquoi
oui, c'est,
I love
bah,
you
c'est, je ne sais pas.
Normalement, voilà. L'auteur de cette chanson ne savait pas conjuguer.
Il faut avouer ses limites. Non, bah, il savait conjuguer quand même. C'était Gershwin à la base, quand même, un petit peu. Porgy and Bess, en fait, c'est la pièce Porgy and Bess, donc, voilà, qui a été popularisée par Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, notamment. Voilà,
elle écrit la musique, mais pas les paroles.
Là, elle a écrit ni musique ni paroles. Là, c'est une reprise comme... Comme j'allais dire, à l'époque, tout le monde fait des reprises. Il y avait des gens pour écrire, des gens pour chanter, des gens pour jouer. On mélangeait pas encore les genres. Là, on est encore dans les années 40, début 50. Donc ça se passe comme ça. On en était à la période où elle a été rejetée entre guillemets de l'Institut Curtis. Donc on disait qu'elle travaillait pour un photographe assistant, tout en continuant à prendre des cours de musique. Très vite, elle va elle-même donner des cours de musique. Elle va s'associer d'abord à une pianiste. Pour faire du piano en présence de ses élèves, voilà. Et puis finalement, elle va créer ses propres cours. Elle va prendre une partie des élèves dans son cours à elle, d'ailleurs. Voilà. Bon, on pourrait se dire jusque-là que c'était un peu un immense gâchis, hein, vu le potentiel de juste donner des cours de musique, sans compter que effectivement, le fait d'être noir à cette époque-là l'aidait peut-être pas à avoir beaucoup de clients entre guillemets. Mais bon. Elle continue en tout cas le piano, elle s'accroche et pour gagner des sous, à la fois par plaisir et pour gagner des sous, elle va donner quelques concerts déjà, des concerts uniquement instrumentaux. Elle va notamment jouer à Atlantic City, qui est l'équivalent de Las Vegas sur la côte Est. En gros, c'est la ville du jeu, de la perdition.
Et du péché.
Elle va jouer dans un bar notamment qui s'appelle le Midtown Bar and Grill. Voilà, qui va l'engager pour un été, je crois, au début, quelque chose comme ça. Un été où elle joue donc du jazz, du blues, ce genre de choses au piano, où ça marche pas mal, mais où le patron lui dit tout de suite, moi, si tu chantes pas, je te vire, quoi. Donc c'est soit tu chantes et tu joues du piano, soit je vais chercher quelqu'un d'autre. Elle s'y plie et elle commencera à chanter notamment le morceau qu'on a entendu là juste avant, I Love You Porgy. Et ça marche bien. Alors entre-temps, elle fait la saison, comme on dit, et après la saison, elle rentre chez elle, elle donne ses cours de piano, etc. Elle dit pas à ses parents qu'elle fait ça, qu'elle va à Atlantic City pour chanter de la musique profane, car on l'a vu tout à l'heure, vu ses parents, leur religiosité, ça leur aurait filé une attaque. D'ailleurs, elle ne s'y trompera pas, parce qu'après, quand elle leur dira, elle se froissera définitivement avec sa mère, qui n'accepte pas qu'on puisse chanter comme ça la musique du diable. Entre guillemets, c'est pas encore du rock, mais c'est déjà la musique du diable, vu que c'est pas la musique de Dieu.
C'est-à-dire que Atlantic City, c'est pas non plus...
C'est pas la ville de Dieu.
C'est pas la ville de Dieu.
Dieu du jeu.
Sodome et Gomorrhe, hein.
Voilà. Et l'été d'après, finalement, elle revient. Et là, elle a déjà quelques fans, entre guillemets, qui l'attendent. Ça marche beaucoup. Et elle va même jusqu'à faire une troisième saison où là, elle a vraiment son noyau dur qui est constitué. où elle rôde déjà des morceaux qu'on verra apparaître un peu plus tard sur différents albums. Et surtout, ça lui permet d'être repéré cette fois par différents producteurs. Alors, les noms, je les ai plus trop en tête, mais bon, il y a plusieurs étapes, entre guillemets, des intermédiaires et autres, qui l'amènent finalement à signer son premier contrat discographique. Donc, on est en 57. Avec une maison qui s'appelle Bethlehem, tout simplement, comme la ville. Hein,
Alors, elle a d'abord signé avec un premier label qui s'appelait King Records.
Oui, voilà, ouais, enfin, Bethlehem voilà. est une division de D'accord, King Records, voilà, c'est un sous-label, comme on dit. Et donc, très vite, elle enregistre en une journée, je crois, l'équivalent d'un album, voilà, qui sera Little...
14 titres.
14 titres, voilà. Bon, comme ça se faisait voilà. à l'époque, hein, les Beatles aussi l'ont fait après tout, et c'était un peu plus tard. Little Girl Blue, dans lequel on entend le titre qu'on a écouté tout à l'heure, I Love You Porgy, voilà, et qui connaît un petit succès entre guillemets, hein. c'est pas l'euphorie, c'est pas l'extase, mais bon, c'est pas un énorme label, elle est méconnue.
Et alors petite anecdote, c'est que c'est aussi une chanson sur laquelle il y a un titre qui s'appelle My Baby Just Cares For Me, je crois.
Oui.
Et en fait, Nina Simone, qui a écrit et interprété cette chanson.
Ah non, elle a reprise. Là aussi, c'est une reprise, ouais.
Parce qu'elle a perdu une reprise.
Ouais, elle a vendu ses droits comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Maintenant, ça n'existe quasiment plus. À l'époque, on donnait le choix. Tu avais 2 minutes pour réfléchir. Il y a une scène dans le film des frères Coen, Inside Llewyn Davis, qui est très bien là-dessus. En gros, tu arrives, tu vas jouer un morceau en studio, on t'appelle pour un truc, machin. Et tu as le choix. Soit tu veux avoir tes droits et c'est une procédure hyper compliquée et tu dois payer pour jouer au début et machin en attendant du. Voilà. Soit tu as besoin d'argent tout de suite. Et tu dis ok, je signe, et puis 3 000 $, t'es content. Sauf que après, si ça fait un tube, tu touches zéro. Donc, My Baby Just Cares For Me, que tout le monde connaît aujourd'hui, par sa version à elle, qui passe régulièrement en radio, elle ne touche rien, elle n'a jamais rien touché dessus depuis ce jour où elle a cédé ses droits.
C'est sûr, à peu près plusieurs millions de dollars.
C'est fou ça.
Mais ça se faisait comme ça à l'époque. Et c'était une reprise de. J'ai oublié le compositeur, mais de toute façon, c'était juste un compositeur, c'était pas un chanteur. Mais il y avait. J'ai mangé son nom qu'il a reprise avant elle, parce que c'est un standard des années 20, en fait, My Baby Just Cares For Me. Et le type, il a chanté ensuite en tant que mort avec sa fille. Elle avait repris Nat sa King voix. Cole. Oui, voilà, Nat King Cole. Voilà, Nat King Cole l'avait repris avant elle.
En tant que mort.
Oui, je n'ai pas compris cette
phrase.
Oui,
non, mais... en gros, ils ont pris sa voix et ont fait comme pour les Beatles, sa fille as a bird. Ils ont pris sa voix et sa fille avait chanté avec sur un disque. C'était la première fois que ça faisait, je crois. Enfin, bref. Voilà, alors on va peut-être passer à ce troisième extrait dont on parlera un peu plus tard. Un extrait qui s'appelle Wild is the Wind, qui est enregistré en live.
Love me, love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild as a wind. Let the wind blow through your heart, for wild is the wind. You touch me, I hear the sound. Kiss my life begins.
Wild is the Wind en live. C'était où ce concert ?
Je sais pas.
Ah, très bien.
Je sais plus, j'ai oublié. Mais
je sais pas, tu es de
C'était au début des années 60.
Faut être mytho,
New York. Voilà, on va dire New York. Elle fait beaucoup de live à New York, cette période-là.
C'était ça. Donc, Luc, oui ?
Oui, pour la petite histoire, donc, on va quand même expliquer d'où vient son pseudo, puisque c'est un pseudonyme
de
Nina Simone.
Oui.
Nina, c'est parce que c'est le surnom que lui donnait un de ses petits amis. Il l'appelait Nina, donc une petite fille en espagnol. Et Simone, c'est un hommage à Simone Signoret qu'elle avait vu dans le film Casque d'or de Jean Becker. Et qu'elle avait particulièrement apprécié. Voilà.
Et donc ce pseudo, elle le prend dès sa période Midtown Bar and Grill à Atlantic City, quand elle a besoin justement de se produire sur scène et de se cacher un peu de ses parents, qui, voilà, elle prend un nom de scène essentiellement pour ça au début.
Ouais. Puis il faut dire que Eunice Kathleen Wyman sur scène, ça faisait bizarre quand
même. Ouais,
on sait pas, ce serait habitué peut-être.
On ne sait pas. Voilà. Moi, j'aime bien Eunice Kathleen, je trouve ça joli. Très bien, Luc. Les premiers enregistrements, donc, on a commencé à en parler.
Avec Fab, donc avec ce Little Girl Blue, c'est ce premier album enregistré chez Bethlehem. Ce qui lui permet d'ouvrir la porte d'une maison de disques qui est un peu plus grande, qui s'appelle Colpix Record. Bon, qui n'y a pas non plus. Continuer, c'est pas une des grandes majors de l'époque, hein. Ça reste une bonne maison de disques locale de la côte est, mais qui va lui permettre de continuer à enregistrer. Donc il y a une série d'albums. Alors, on va pas parler de tous les albums parce qu'il y a une quarantaine d'albums.
C'est assez compliqué de s'y retrouver d'ailleurs.
Ouais. Alors quarantaine d'albums qu'elle a fait. Alors, on vous compte pas les compiles, les choses comme ça.
Il y a beaucoup d'albums où les chansons, où on retrouve les mêmes chansons en plus, qui sont réenregistrées en fonction des différents labels avec lesquels elle a signé, en fonction des différentes périodes avec des arrangements différents, ou alors en live parce qu'elle a sorti énormément de la moitié à peu près d'albums en live en fait. Notamment à cette période où même pour Bethlehem, elle sort son deuxième album qui est le deuxième est un studio, mais c'est juste après où elle commence à enregistrer des albums live et elle enregistre plusieurs par année quoi. Donc
voilà, elle va sortir toute une série d'albums chez Colpix, hein, des lives, des albums. Et petite particularité qui va montrer que quand même c'est un caractère qui est bien trempé et pas comme les autres, c'est qu'elle demande, Colpix donc va renoncer au contrôle de l'aspect créatif, y compris le choix du contenu qui doit être enregistré. Voilà. Donc par contre, elle doit s'engager par contrat avec Colpix, mais Colpix s'engage à renoncer à tout ça, ce qui est quand même assez c'est-à-dire que c'est elle qui gère ce qu'elle va enregistrer, ce qu'elle va mettre, et c'est pas sa maison de disque qui va lui imposer ses choix musicaux, ce qui pour l'époque est quand même relativement.
Voilà, c'est ce que j'allais te dire pour l'époque.
Et ce qui en plus aura une influence déterminante sur la suite de sa carrière, vu que comme on va le voir, elle va beaucoup s'engager dans les droits civiques et finalement faire ce qu'on peut qualifier de protest song. Même si elle joue pas de la guitare et avec le cliché de Dylan qui joue.
Pas d'harmonica.
Et non, voilà. Mais elle fait réellement du folk en fait, piano voix, tout simplement.
Peut-on faire une protest song sans harmonica ? Vous avez 4 heures.
Ah bah oui, on peut. Voilà, la preuve par Nina Simone. Non, et que ça soit dans les reprises de morceaux traditionnels ou dans ses propres compositions qu'elle commence à sortir à cette période-là, voilà, on peut qualifier ça vraiment de folk. C'est juste que par folk, souvent, on entend un peu guitare-voix et voilà. Mais ce sont notamment la période Cold Peaks, c'est le début de sa période contestataire avec les droits civiques où elle s'engage profondément.
On est dans les années 60 puisqu'elle va épouser, ouais, c'est en 1961 qu'elle va épouser celui qui va devenir son manager, un monsieur qui s'appelle Andrew Stroud, qui est détective de la police de New York. Elle l'épouse en 62, ils auront une petite fille qui s'appelle Lisa Céleste. Qui est sa seule fille d'ailleurs, le seul enfant.
Et qui chante. Qui a été il y a quelques jours ou dans quelques jours en concert près de Saint-Etienne dans le cadre de Rhino Jazz Festival.
Et qui a été décorée, hein, qui a eu pas mal de récompenses elle aussi.
Oui, qui est une très bonne chanteuse, hein, qui a joué dans des comédies musicales depuis déjà quelques années. Hein.
Avec Garou ?
Non.
Non, on a dit
non, à Broadway. Des vraies comédies musicales en fait.
Une bonne chanteuse, on a dit.
Qui écrit elle-même ou elle chante juste des reprises
Alors Lisa, je ne sais pas si elle écrit, mais...
Je crois qu'elle reprend pas mal de comédies, donc du coup, de comédies musicales, donc du coup, c'est plutôt des trucs sur lesquels elle écrit pas nécessairement. Voilà, donc Nina Simone, ce qu'elle fait avec Cold Peaks, elle va le garder toute sa carrière finalement, elle va avoir toujours ce regard un peu d'avoir cette... Finalement, trouver un contrat d'enregistrement, elle s'en foutait un peu, quoi. Est-ce qu'il l'intéressait, c'est d'avoir ce côté-là, c'est de conserver l'aspect créatif, et ben de pouvoir chanter ce qu'elle veut. On va voir très vite qu'elle va le faire plutôt bien. Voilà. Donc c'est, on est en 64, et puis elle va finir l'aventure Cold Peaks pour s'engager avec là pour le coup une firme qui est beaucoup plus importante, c'est une firme européenne qui s'appelle Philips et qui va lui offrir un contrat. On va
64 à l'échelle Beatles, Fab.
64 à l'échelle Beatles, on est dans Hard Day's Night, on est en pleine Beatlemania et le début de la déferlante aux États-Unis, la Beatlemania avec notamment le Ed Sullivan Show, 73 millions de téléspectateurs, une baisse de la violence dans toutes les rues des villes de New York et d'autres villes d'ailleurs, voilà, enfin, bref, etc., etc.
Allez, on va écouter une petite reprise qui s'appelle Ne me quitte pas, une reprise de Jacques Brel.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peu soulier qui s'enfuit déjà, oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'affirmais des balles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce bois mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paraît-il des terres brûlées dans la
plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Alors, pourquoi ne me quitte pas? Comment ça se fait qu'elle reprenne du Jacques Brel?
Eh ben parce qu'elle aime ça.
Ouais.
Parce
qu'elle a connu au fin fond de Caroline,
au fin fond des États-Unis, mais au fin fond des États-Unis, mais c'est un grand pays, les États-Unis d'Amérique du Nord tout de même.
On
plus que la Belgique.
On entend des chanteurs belges aux États-Unis à cette époque.
Mais Brel était populaire dans le monde entier à cette époque-là, monsieur. Mais Aznavour était repris dans le monde entier. Gilbert Bécaud était repris dans le monde entier à cette époque-là, monsieur.
Ça craint.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les chanteurs français sont peu repris dans le monde entier.
Thierry Hazard était.
Thierry Hazard n'a pas été repris
dans le monde entier.
Non, enfin bref, tout ça pour dire que non, juste, elle avait bon goût et d'ailleurs, ça représente bien. J'allais dire un peu le flair aussi qu'elle avait, vu qu'on l'avait dit, elle faisait pas mal de reprises, mais à sa manière. Enfin, je veux dire, là, on vient d'entendre, sa version ne me quitte pas, on pourrait croire que c'est elle qui l'a écrite, et surtout, j'allais dire, au risque de choquer quelques fans de Brel, elle vaut l'original. Je n'ai pas dit elle est meilleure, mais elle vaut. Et c'est un peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire qu'elle va, notamment dans cette période Philips, qui va durer finalement pas très longtemps, hein, 4-5 ans, à partir du milieu des années 60, elle va reprendre à la fois des tubes ou des débuts de tubes. Ne me quitte pas, n'était pas un énorme tube, hein, d'ailleurs, de par Jacques Brel à la base. Comme d'habitude, de Claude François, qui n'était pas un énorme tube, mais qui est devenu par les autres en devenant My Way. Et elle va piocher comme ça, elle va faire une création, notamment, on l'a écouté en ouverture d'émission, Don't Let Me Be Misunderstood. C'est pas elle qui l'a écrite, mais c'est elle qui l'a créée, donc qui l'a jouée en premier. Et qui va être ultra populaire après, qui va être reprise par les Animals, qui vont faire un méga tube. Elle a notamment repris I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins pour en faire une version exceptionnelle aussi, qui sera là aussi reprise par Creedence Clearwater Revival ou les Animals, encore une fois.
Et le titre de son autobiographie.
Et le titre de son autobiographie d'ailleurs, voilà. Il y a pas mal de reprises comme ça, donc elle pioche.
Et
House of the Rising Sun, voilà, on n'en a pas parlé. Alors c'est particulier parce que House of Rising Sun, elle reprend dès 1961 en concert, en piano. Il y a un album d'ailleurs sorti en 62 live où elle le joue et elle le joue en live depuis le Village à New York, c'est-à-dire pile poil dans le circuit folk. Et il se trouve que juste après elle, il y a Dave Van Ronk qui en fait une version folk, guitare cette fois, reprise par Bob Dylan, qui lui-même sur son premier album joue House of the Rising Sun et qui la popularise. Et ensuite, les Animals la reprendront et puis ça sera le tube que l'on sait. Mais elle a été quasiment la première à la reprendre sur un album un peu grand public et la sortir de l'oubli, cette chanson qui date, on verra dans une émission prochaine, sans donner le nom de qui on va parler, voilà, qui date plus ou moins des années 20 ou 30, on sait pas très bien. Enfin, bref.
Et puisque tu me permets, on parlait de I Put a Spell on You.
Tu te permets tout seul, là, t'as rien permis.
Non, je te permets.
Mais
oui, je te permets.
John Lennon a dit que cette chanson de Nina Simone, enfin cette version de Nina Simone, avait été une source d'inspiration pour la chanson Michel.
Voilà. Eh oui. Alors tu vois pas le rapport là comme ça tout de suite.
Comme ça tout de suite.
Ben,
non,
moi non plus.
Mais bon.
Ce qui est sûr, c'est que Nina Simone était une source d'inspiration pour John Lennon de toute façon.
Mais Michel, c'est McCartney en plus.
Ah oui, mais c'est pas un problème.
C'est quoi cette arnaque?
Mais non, mais il a participé à l'écriture un peu. Il n'était pas complètement désuni en 66.
Voyons. Oui, c'est vrai.
Bah oui.
Bah, il peut le dire, même si c'est McCartney qui le fait.
66-65 d'ailleurs.
C'est une source d'inspiration des Beatles. Il dit, c'est une source d'inspiration de John Lennon pour la chanson écrite par McCartney.
Non, de toute façon, elle a influencé plein de monde. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Et David Bowie et plein d'autres qui l'ont repris.
Et ses influences à elle.
Et ses influences à elle, bah, à la base, on l'a dit, c'est la musique classique. Aussi étrange que ça puisse paraître au niveau du piano. Non, elle continuera de mêler ça dans ses improvisations sur scène, parce que des fois elle joue des morceaux pendant 10 minutes allongés au piano. C'est elle qui joue vraiment. Elle a souvent très peu de musiciens autour d'elle.
Précise, quand tu dis des morceaux de 10 minutes allongés au piano, elle n'est pas allongée sur le piano, elle les allonge.
Non, elle joue du piano
minutes.
Debout. Ah non,
ah,
précise.
D'accord, je préfère préciser.
Elle allonge les morceaux. Mais non, elle met encore de la musique classique dedans. Elle a des influences jazz. Le premier album est très très proche du jazz. Avec,
c'est un peu une Gainsbourg.
Ouais, oui, si on veut. J'allais dire plus de talent d'instrumentiste au début. Gainsbourg n'est pas un grand instrumentiste, c'est un grand compositeur, mais pas lui-même un grand interprète. Et puis Gainsbourg est aussi un faiseur de tubes pour d'autres et un Pygmalion et tout ce qu'on veut.
Elle a écrit pour d'autres, justement, Nina Simone ?
Non, pas directement. Elle a eu des collaborations par-ci, par-là, mais c'était vraiment, elle est restée, elle, dans son truc. Et qui est inimitable, enfin que personne n'a repris tel quel, quoi. C'est pas du préfabriqué. Elle piochait un peu partout, blues, jazz, musique classique, folk, et elle en faisait son truc et qui fait que c'est immédiatement reconnaissable, notamment par la voix, évidemment, mais pas que.
Pas que.
Et donc je sais plus où on a été du coup parce qu'on
tu
est.
Tu parlais de Philips. Alors justement, j'ai une question. C'était courant à l'époque, ça, que des grosses entreprises ou des multinationales parrainent des artistes?
Philips, ça a été un grand label musical, hein, et beaucoup d'artistes sont passés sous le label Philips.
Hein. Oui. Non, et puis à l'époque, les contrats musicaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, il y avait une notion d'argent, bien sûr, mais ils étaient peut-être un peu plus proches des artistes, entre guillemets. Il y avait peut-être un vrai don pour dénicher les talents, pour les accompagner, pour ceci, cela. Alors parfois sans pitié, hein. Des fois c'était pour des tubes d'un jour, et d'une certaine manière ils le savaient d'avance. Mais on laissait aussi le temps aux artistes d'émerger, c'est-à-dire si le premier album marchait pas, et ben voilà, il fallait arriver à maturité, troisième album, machin. Maintenant ça c'est fini. Hein.
Alors tu parles de tubes. Oui. Philips l'a poussé à faire des tubes, elle en a fait.
Ah non, c'est pas que Philips l'a poussé à faire des tubes, c'est que sa période chez Philips a fait des tubes tout simplement. C'est que ça marchait particulièrement bien. On a dit ne me quitte pas, Don't Let Be Misunderstood, I Put a Spell on You. Voilà, il y en a quelques uns comme ça. On va pas tous les citer, mais c'est une période de faste en tout cas.
C'est que 3 ans hein, chez Philips.
Ouais, 3 ans. 64. Oui. C'est ça, je cherchais la date de fin, mais effectivement, 67. Dès 67, elle s'en va. Il y a Wild is the Wind qu'on a entendu là tout à l'heure, qui est de la même période, qui sera repris par David Bowie notamment, qui n'est pas une chanson d'elle, encore une fois, mais tout le monde croit que c'est d'elle. Wild is the Wind, c'est une chanson de Johnny Mathis à la base, mais sa version est devenue tellement spéciale que même quand David Bowie la prend, on dit ouais, c'est une reprise de Nina Simone. Mm. Et même lui dira finalement, je fais une reprise de Nina Simone parce qu'elle a tellement. Interpréter au sens propre du terme la chanson que c'est devenu la sienne.
Nina Simone, elle s'exporte hors des States ?
Oui. Après, voilà, c'est relatif entre guillemets. C'est pas les ventes des Beatles non plus. Hein. Après, la différence c'est aussi qu'elle sort des albums à l'appel, quoi. Enfin, je veux dire, elle sort 2 albums par an. Donc, c'est rentabilisé de toute façon. Enfin, elle vit bien, il n'y a pas de problème.
Ça reste un créneau aussi.
Oui, en plus, c'est pas non plus la musique dominante, entre guillemets. Voilà,
c'est pas de la pop.
Même si ça commence à venir, on va en parler dans la période qui suit, justement, elle va faire des chansons, entre guillemets, plus populaires. Voilà. Mais reprendre Ne me quitte pas à cette époque, même si c'était un tube. C'était pas destiné à l'être. On ne peut pas dire qu'une chanteuse comme osé, ça, quoi. Qui reprend une chanson belge pas trop, trop connue au niveau mondial, en face
français,
un tube.
En plus.
Oui, en français, en plus, parce que pour le coup, elle l'a pas traduite.
Elle
a reprise telle qu'elle. Enfin, on va peut-être écouter un nouveau morceau qui concerne le combat pour les droits civiques, et du coup, on en parlera après. C'est un morceau qui s'appelle For Women.
Black, my arms are long, believe. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia.
Non, c'était Four Women. C'est une chanson emblématique de Nina Simone qui parle de son combat pour les droits civiques et qui reprend en fait quatre stéréotypes de femmes noires, de femmes afro-américaines plutôt, on va dire, et qui a été censurée à l'époque parce qu'elle a été considérée comme raciste. Donc voilà, mais Luc, tu vas nous en dire un peu plus sur ce combat-là justement.
Qui était donc sur l'album Wild is the Wind. C'est à partir du moment où elle est rentrée donc, chez Philips qu'elle va développer son combat pour les droits civiques. Alors, c'est contrairement à Martin Luther King, qui est une des principales figures de la lutte pour les droits des Afro-Américains et partisan de la non-violence, Nina Simone, elle était pas dans cette mouvance-là. Elle soutenait la révolution par la violence. En estimant que les Afro-Américains pouvait, par la lutte armée, former un État distinct. Voilà.
Ah oui, quand même.
D'où les qualifications de raciste.
D'où les qualifications de raciste. Alors,
dont elle se défendra.
Dont elle se défend toujours, hein, parce qu'elle elle estime qu'elle et sa famille ont toujours été pour l'égalité entre les races. Néanmoins, elle va avoir une très forte voix dans cette lutte-là. On l'a entendu là avec la chanson For Women, qui raconte donc effectivement la vie de quatre les stéréotypes, hein, sur quatre différentes femmes afro-américaines. Il y en a d'autres. Il y a des chansons comme Old Jim Crow, en fait, qui réagit aux fameuses lois Jim Crow qui étaient en vigueur dans le sud des États-Unis, qui étaient en fait des lois de ségrégation, hein. C'est toutes les lois qui faisaient que les bus, il y avait des places dans les bus réservées aux blancs et celles du fond étaient aux noirs, qui faisaient que les noirs pouvaient pas aller boire dans les mêmes fontaines que les blancs, etc., etc. Il y a d'autres chansons, là, une chanson qui s'appelle Mississippi Goddam, qu'elle a interprétée sur le premier enregistrement public pour Philips, un concert qui s'appelait Nina Simone in Concert, enfin un album qui s'appelait comme ça, et donc Mississippi Goddam, c'était une chanson qui était en réponse à l'assassinat d'un Afro-Américain qui s'appelait Medgar Evers et d'un attentat en Alabama, justement, donc cet État qui a fait beaucoup parler de lui dans la lutte pour les droits civiques, où quatre petits enfants noirs avaient été tués. Donc elle a vraiment politisé son message par rapport à la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains.
Oui, et d'ailleurs, il y a une phrase qui représente bien son combat et son état d'esprit, une phrase tirée de son autobiographie qui sortira je ne sais plus quelle année d'ailleurs, assez tardivement. Elle dit « La première chose que je voyais le matin au réveil, c'était mon visage noir dans le miroir de la salle de bain, et cela conditionnait ce que je pensais de moi pour le reste de la journée. » Elle est vraiment marquée par ça. Enfin, ça disait à quel point elle se réveillait en tant que noire, elle se voyait en tant que noire, se vivait en tant que noire, elle luttait pour les noirs. Voilà, d'où les accusations qu'il y a pu avoir un peu de racisme. Bon, voilà. Est-ce qu'elle était vraiment raciste? A priori, non. Après, dans sa lutte pour les droits civiques, c'est clair qu'elle n'était pas du côté, comme on l'a dit, de Martin Luther King, plutôt du côté de Malcolm X. Et elle avait beaucoup d'amis chez les Black Panthers. Voilà, sans elle-même être violente, elle donnait du crédit à des gens qui l'étaient, en tout cas.
Oui,
même si ça servait une cause.
Par contre, il y avait une certaine violence dans le choix des chansons et le choix des thèmes.
Bien sûr, mais comme elle avait la liberté de le faire, effectivement, elle s'en est pas privée.
On en revient à ce premier choix de carrière qui était celui d'abandonner une certaine latitude de ses contrats pour préférer choisir cette liberté créative et qu'on lui impose pas ce qu'elle chante ou ne chante pas. Voilà, il y a d'autres chansons sur lesquelles elle parle du lynchage d'hommes noirs. Enfin, voilà, il y a beaucoup de violence quand même dans les textes qu'elle choisit d'interpréter, ce qui lui vaudra d'être interdite sur plusieurs radios, notamment pour la chanson dans For Women et d'autres, notamment évidemment dans le sud des États-Unis, zone sensible si l'année à cette époque. On est en 1967, ça fait à peine 10 ans que le Conseil constitutionnel, alors je ne sais pas le Conseil constitutionnel aux États-Unis, mais qui a interdit, qui a déclaré que les lois de ségrégation étaient anticonstitutionnel. Donc c'est encore tout jeune et il y a encore beaucoup, on est en plein dans cette période-là où il y a des éléments de trouble qui se passent encore tous les jours aux États-Unis.
Tout à fait. On est d'accord.
On est d'accord.
On va peut-être
très belle leçon d'histoire, Luc. Merci.
On va peut-être écouter un morceau qui s'appelle
Ain't Got No.
Ain't Got No. Et vous allez voir, vous le connaissez tous.
Satisfaction. Mais non. No work, no job,
though it's been strained a little lately. The voice has been abused too much lately, but I still got my choice of living, dying, laughing, crying. And though I do them all, I gotta stay till my job is done. And until then,
Alors, une chanson pour, pour Mandela. C'est ça, Fab ?
Pas du tout.
Ah, mince, je croyais.
Il faut pas prendre en compte les discussions qu'il y a quand on passe des disques, ah. qui n'ont parfois rien à voir.
D'ailleurs, en fait, on en parlera
qui
pas.
Qui permettent de finir mes frites, certes, oui. mais qui ne permettent pas de juger du tout, parfois même de l'émission. Là, par exemple, Engano, non, c'est un extrait de la comédie musicale R. Hein, tout simplement, R comme cheveux.
Bravo, vous me menez en bateau pendant les morceaux, mais c'est pas
du
pas
tout.
Beau,
on parlait de Nelson Mandela, on en parlera après, ça n'a rien à voir.
Nelson Mandela et R, pourquoi il va falloir qu'on m'explique
c'est Julien Clerc, le lien.
Il avait des cheveux, donc voilà.
Oui, probablement les cheveux.
Enfin, des poils. Enfin, R, ça veut tout dire. Donc. Mais c'est un extrait de la comédie musicale R. Donc, elle a repris. Et ça a marché fort. Et donc, c'est à cette époque-là qu'elle change de label encore. Elle passe de Philips à RCA et là elle continue de faire des tubes, mais effectivement elle s'oriente à la fois vers une musique plus populaire, comme on vient de le voir avec cet extrait qui est extrêmement populaire à l'époque, la comédie musicale R, c'est un carton. C'est un truc, hein. Mais en même temps, elle continue dans sa veine défense de la race noire avec des morceaux, pour le coup, pas très populaires. Donc il y a vraiment les deux versants, et la période RCA représente le summum, j'allais dire, dans les deux sens. On a d'un côté la femme qui reprend vraiment mais tous les tubes, Here Comes the Sun de George Harrison, elle en refait un tube, etc. Elle reprend du Bob Dylan, elle reprend les Bee Gees... To Love Somebody, elle en fait une reprise
d'ailleurs,
magnifique.
Elle a fait l'album qui s'appelle The Finger in the Prize. Les doigts dans la reprise.
Ah bon, c'est
oui,
bien
bon, c'est une petite pique, mais c'est vrai. Il y a une émission des doigts de la reprise consacrée à Nina Simone. Je vous invite à la réécouter en podcast sur 48fm.org.
Est-ce qu'elle a repris Coco des Beach Boys?
Non, c'est Kokomo déjà.
Non, elle a pas repris. Elle a hésité, non. Mais finalement...
Coco, c'est Gigi Kale.
Non mais c'est vrai qu'elle a fait énormément de reprises et comme le disait Fab tout à l'heure, souvent elle a fait aussi des reprises qui ont servi d'étalon en fait, c'est plus que la version originale.
Tout à fait.
Pourquoi elle a jamais signé chez Blue Records?
Blue Note. Parce qu'à l'époque, Blue Note était... Enfin, déjà, je ne sais pas si elle en a eu envie un jour. Hein, donc peut-être qu'elle n'avait pas envie.
Quand même, donc...
Mais Blue Note, c'est purement... À l'époque, en tout cas, c'était purement jazz. Mais jazz quasi intégriste, entre guillemets. Il n'y a qu'à voir même, ne serait-ce qu'à une dizaine, une quinzaine d'années.
Mais Ray Charles, il y allait, non?
Oui, mais il faisait du jazz, et il était était sur Blue Note en plus tardivement et pour juste quelques disques, et puis c'était pas cette période-là. Là, quand Norah Jones a signé chez Blue Note, ça fait 15 ans maintenant, un peu moins peut-être. Oui, c'est une petite quinzaine d'années. Il y a encore des gens pour crier au scandale parce que c'était pas du jazz, le premier album de Norah Jones. Donc bon.
C'était presque plus jazzy que ce qu'elle peut faire.
Après depuis, elle fait de la country, mais bon, ça c'est un autre débat.
Et puis RCA, c'est quand même, c'est pas mal. mal à l'époque. Hein. C'est un gros label. Hein. Elle n'a pas perdu au change en parlant de passant.
Non, et puis elle garde toute sa liberté, encore une fois. Ce qui lui permet de faire des chansons populaires qui lui tiennent à cœur d'un côté. Elle reprend My Sweet Lord aussi de George Harrison. Elle en reprend plein. Isn't It a Pity, George Harrison aussi. Enfin, elle en fait vraiment un paquet comme ça. Et entre, elle met des chansons ultra, ultra, ultra politiques comme To Be Young, Gifted and Black, qu'on va écouter tout à l'heure, et dont je vous propose de faire une petite traduction.
Ah, t'es prêt ? Traduction, Fabien !
Être jeune, talentueux et noir, oh, quel rêve incroyable ! Être jeune, talentueux et noir, ouvre ton cœur à essayer de comprendre ce que je veux dire. Car tu le sais, dans cet immense monde, il y a un million de garçons et de filles qui sont jeunes, talentueux et noirs. Être jeune, talentueux et noir, nous devons commencer à dire à nos jeunes qu'il y a tout un monde entier qui vous attend. N'as-tu pas entendu que la quête vient juste de commencer ? Ne sais-tu pas que la joie est qu'aujourd'hui est le jour où nous sommes tous fiers de dire que nous sommes jeunes, talentueux et noirs ?
Oui, mais ça montre bien ce qu'on explique depuis tout à l'heure, cette défense.
Encore heureux.
Et donc pour venir en support de la traduction de Fabien, c'est une adaptation d'une pièce inachevée d'un auteur, d'une dramaturge américaine qui s'appelle Lauren Hansberry, et qui était en faveur des droits civiques. Voilà, donc elle a adapté ce texte-là en chanson, et d'ailleurs il y a une reprise qui a été faite par
Aretha Franklin et Donny Hathaway. Entre autres, parce qu'il y en a eu d'autres, et puis plus ou moins tous les chanteurs noirs qui sont souciés à un moment donné de la cause noire ont repris cette chanson, moins aujourd'hui parce que Dieu merci on est un peu plus égaux. Mais dans les années 70, c'était vraiment devenu un classique de la lutte, entre guillemets. Donc voilà. Et elle a réussi à en faire un petit tube quand même. Enfin, ça n'empêche pas. On peut faire des chansons politiques et qui soient aussi magnifiques. Et d'ailleurs, la preuve, on va l'écouter tout de suite.
Tellement bien magnifique.
Allez, hop. Parti.
Ah, une belle chanson.
Oui, une chanson sur Nelson Mandela.
Sur Madiba.
Pas du tout.
Non. J'ai une question. Est-ce qu'elle oui. quitte un jour les États-Unis
Oui. Ah. Bon, on y arrive, justement.
On y arrive.
Oh là là, c'est comme fou. Par hasard. Oh.
Tu as bien suivi le conducteur. C'est en 1970 qu'elle quitte les États-Unis. Alors, c'est un peu flou, cette histoire. Elle part vers la Barbade. Où elle donnera naissance à Rihanna quelques années plus tard. Non, je déconne. Elle part sur la Barbade et en fait, elle pense que son mari et manager, donc Andrew Stroud, va la rappeler pour lui dire bah, c'est bon, tu peux revenir. Tu peux revenir et tu peux remonter sur scène. Et lui, par contre, alors, apparemment, elle est partie sans trop le prévenir, par contre. Hein. C'est pas super bien.
Oh là là. Et sans beaucoup d'alliances. Entre ouais, guillemets. Et donc il s'est dit oh, elle me quitte, elle bah, s'en va, elle arrête sa carrière, Zobizoba.
C'est-à-dire
Zobizoba.
Quick. Elle est partie et elle a laissé effectivement son alliance sur une table en partant. Donc c'est,
parce bon, qu'elle a oublié ou.
On sait pas. On
ça s'appelle un acte manqué probablement, en psy.
Lui, il prend ça ouais. pour.
Chez Patrick Bruel aussi.
Et lui, il prend ça pour une demande de divorce. Donc du coup, bon, ça se passe pas super bien. Parce qu'en fait, il continue à être manager, donc il gère toujours les droits et un peu l'argent et les revenus de Nina Simone. Donc, du coup, c'est un peu flou. Elle revient aux États-Unis et les impôts lui tombent dessus parce que, parce qu'elle n'a pas payé ses impôts. Alors, elle, ou son manager.
Alors, il y a aussi une période où elle a volontairement pas payé ses impôts pour protester contre la guerre au Vietnam. Voilà. Alors, après. Il y a peut-être un peu d'étroit, c'est-à-dire un peu d'oubli, un peu de volonté politique et puis un peu de bisbille avec son ex.
Elle part combien de temps ?
Assez longtemps parce qu'en fait, elle est quasiment jamais revenue aux États-Unis au final.
Et elle n'enregistre pas pendant 2 ans, ce qui est une première pour elle. Voilà, pendant 2 ans, vraiment, c'est un top music.
Et donc surtout, elle revient et elle repart à la Barbade parce que finalement,
être c'est moins cher.
Bah surtout, elle est recherchée dans son pays. Donc,
oui, coup, puis aux États-Unis, ils commencent à, entre guillemets, avoir un peu peur d'elle, même les programmes télé et autres, programmer quelqu'un qui prenait un petit peu la violence, entre guillemets, et puis voilà. Ou d'un moment, ils se disent, si elle a des problèmes avec le fisc, qu'il y a des bisbilles au niveau de ses enregistrements, et qu'en plus, ils préfèrent ne pas tenter le coup. Du coup, elle est invitée nulle part, elle passe pas à la radio et tout. À quoi ça sert de rentrer dans ces conditions ? Effectivement, elle retourne à la Barbade.
D'autant qu'en cours de route, elle vit une longue passion avec le premier ministre de la Barbade qui s'appelle Errol Barrow. Donc finalement, elle est pas plus mal là-bas.
Manuel Barrow.
Alors c'est 4 ans en fait.
Oui, elle est. Enfin,
4 ans sans enregistrer. D'album.
Oui, voilà. Enfin, elle a fait un truc quand même en. Alors là, quelle année déjà
en 74.
Ouais, 74.
Son dernier album. Son dernier album est de 74 et entre 74 et
78. Il s'appelle It's Finished.
C'est fini.
C'est fini. Enfin, son dernier album pour RCA, parce que comme on va le voir, finalement, elle va quand même trouver d'autres contrats. N'est-ce pas, Luc ?
Exactement, avec une société qui s'appelle CTI Records, qui la persuade de retourner donc enregistrer pour un album qui va s'appeler Baltimore, alors qui n'est pas vraiment un succès.
C'est une reprise de Randy Newman, d'ailleurs, Baltimore. Encore une reprise. On devrait changer le titre de cette émission.
Ouais.
Si on l'appelait les doigts dans la reprise.
Non, c'est déjà pris.
C'est déjà pris. C'est une émission sur RFI.
Du coup, c'est pas.
Je fais la gueule.
C'est pas un grand succès commercial. Voilà. C'est un album qui est toujours aussi éclectique parce qu'elle va de des chansons spirituelles, un peu gospel, à la pop. Enfin, moi, elle a une large palette. Elle continue. Donc, on en parlait tout à l'heure. En 78, elle a été arrêtée justement à cause de ses impayés d'impôts entre 70 et 73. À l'époque où elle protestait contre l'engagement américain au Vietnam. Elle signe sur un autre label, label français qui s'appelle Carrère en 78. Avant de partir s'installer en France. Alors d'abord à Paris. Au début des années 80, elle habite Paris, elle donne des enregistrements là-bas, elle fait des albums solo. Des albums solo. Pff, des albums live, effectivement, elle ne fait que des albums solo.
Elle ne vit pas qu'à Paris, après, elle part.
Non, après, elle part dans le sud, Carrie Le Rouet.
Ouais, avec, enfin, avant Paris aussi, oui, entre pardon, la Barbade et Paris, elle est partie au Liberia.
Il y a le Liberia, la Suisse et les Pays-Bas.
Ouais, voilà. Donc elle a pas mal voyagé, voilà, voilà, avant de se trouver un petit peu.
Après, elle a habité au Liberia dans les années 80.
C'est quoi, ouais, ouais, non, mais elle a pas arrêté de bouger et. Sans forcément beaucoup enregistrer, elle a continué d'enregistrer un peu dans les années 80, mais c'est vrai que c'était un rythme beaucoup moins soutenu, puis totalement dans l'oubli, entre guillemets. Et donc après, elle s'est installée à Paris, puis à Carrie Le Rouet, où elle a fini sa vie. Mais bon, à l'époque, déjà, on peut quasiment dire que sa carrière musicale est finie, même si pas tout à fait, vu qu'on va le voir tout à l'heure.
On va le voir même quasiment tout de suite.
Quasiment tout de suite, après une chanson, peut-être. Une chanson qui s'appelle Nina. Devinez de qui ça parle.
We do something called Nina. Thank you.
Voilà, donc une chanson qui parlait de Mandela, Fab ?
Pas du tout. Hein,
elle parlait de Nina Hagen.
Nina Hagen.
Non, elle parlait de l'équivalent féminin du phénomène météorologique El Niño. En fait, ah, voilà.
Non, voilà.
Elle parlait de Simone, elle parlait d'elle-même, et voilà. Mais tout ça pour dire que on venait de l'enterrer quasiment vivante là, musicalement, dans les années 80.
Paf,
hein,
boum.
Ouais, le pouvoir qu'on a quand même à 48 FM, c'est fou.
Ouais.
D'enterrer les gens vivants comme ça. Mais non, car elle renaît, j'allais dire bien
Quel
malgré,
phénix.
Bien malgré elle. Déjà, elle enregistre, elle continue d'enregistrer des albums, ça on l'avait dit, même s'ils n'ont pas un grand succès. Mais surtout, il y a une certaine marque de parfum relativement connue pour avoir notamment servi de seul vêtement à Marilyn Monroe, à savoir Chanel numéro 5. Qui choisit pour illustrer une campagne de pub en 87 ou 8, My Baby Just Cares For Me, dont on parlait tout à l'heure, la version de Nina Simone. Et là, paf, carton, ça devient un tube. Eh oui, parce que nous, finalement, nous, jeunes que nous sommes, nous n'avons pas vécu les années 60, nous n'étions pas là, ni les années 50. Et finalement, nous ne nous en souvenons que parce que c'était un tube à la fin des années 80, qui ensuite est repassé.
Avec ce fameux clip, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, du clip un pâte à modeler avec un chat en pâte à modeler, enfin, Nina Simone qui était représenté un chat pâte à modeler. Et
ça, c'était la période drogue de lui.
Non, pas du tout. C'était, je me souviens,
c'est la période clip, chat. Mais enfin, bref, tout ça pour dire que c'est.
Sans foutre de ce que je dis. En
non,
fait.
Pas du tout. C'est le plus grand tube de sa carrière, tout d'un coup, sans que. Voilà, bon, bah, il a été enregistré en 57, merci. Et puis, en plus, elle ne touche rien dessus. Donc,
bah non, puisqu'elle
merci.
A vendu ses droits pour $3,000.
Merci encore.
Bravo, Nina.
I got a spell on you, c'était Perrier, non ?
I put a spell on you.
Hein ?
Perrier,
put a spell on you. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est la version
pas sa version.
Non, c'est pas sa version.
Non. Ah, peut-être pas. Ouais.
Non, c'était la version pas. Screaming Jay Hawkins. Ouais. Non, et puis même, il y a eu Put a Spell on You, il y a eu Levis aussi, il me semble, qu'il avait fait, je sais plus. Enfin, bref, ouais. elle est parue dans tellement d'endroits et sous tellement de versions que. Voilà.
Donc, renaissance par la pub.
Ouais, tout ça l'a fait renaître un peu, ce qui fait qu'elle commence à être. À réenregistrer, à avoir un poil plus de succès, à faire diverses collaborations avec des gens aussi variés que Pete Townshend ou Myriam Makeba, qui est une amie à elle. Qu'elle a rencontré au Liberia ou à la Barbade ou enfin lors de ses pérégrinations.
C'est elle qui lui avait demandé, qui lui avait suggéré d'aller s'installer au Liberia.
Oui, voilà.
Peut-on vraiment parler d'amis dans ces conditions ?
Donc là, c'est une renaissance par ses anciens titres.
Ben voilà, par ses anciens. Et puis toute une génération la redécouvre, même si on l'avait déjà un peu redécouvert une première fois, j'allais dire. Par exemple, avec la reprise de Wild is the Wind de David Bowie, sa version, elle doit être de 76, quelque chose comme ça. Ça avait participé à continuer de la faire vivre. Mais c'est vrai qu'il y a une période entre 76 et 86 où elle est oubliée, quoi.
Bah, donc, il y a pas mal de reprises. Hein,
et voilà.
On n'a pas parlé de Feeling Good aussi,
oui.
Qui est une reprise qui a connu pas mal de succès, et de Cinnamon, qui sont, on va dire, les deux succès, les deux reprises de. Parmi les plus connus de...
Finalement, pour une artiste qui est aussi douée musicalement, elle a été connue principalement par ses reprises. C'est un peu dommage, ça.
Ouais. Bah, oui, mais douée musicalement, ça veut dire qu'on est capable de créer un univers, comme on dit, à soi. C'est-à-dire que quand on écoute Nina Simone, on écoute réellement Nina Simone. C'est pas une reprise quelconque. Elle reprend pas de note pour note. Elle recrée une chanson. Enfin, sa version ne me quitte pas. C'est pas du Jacques Brel.
Après, ce qu'il y a peut-être avec Nina Simone, c'est le fait que ses chansons aient été reprises. Déjà, c'est reprise à elle et par tellement d'artistes, on en perd un peu le fait que c'est elle qui a popularisé.
Oui, et puis c'est pas le cas de juste une chanson. Ça serait juste une chanson, effectivement, on pourrait dire quel dommage, et c'est un peu un coup de bol. Elle a eu du flair cette fois-ci, mais là, c'est pour le coup, c'était un vrai talent. Enfin, je veux dire, ces versions sont plus populaires que les originales la plupart du temps au niveau mondial. Je veux dire, c'est quand même qu'il y avait quelque chose, quoi, qu'elle savait y faire, et c'est sans doute son passé instrumentiste au piano qui lui permettait de brasser les gens et de vraiment avoir l'oreille pour sentir la chanson et la sortir différemment, quoi.
Alors, pendant cette renaissance, elle sort quand même des titres ou pas ?
Oui, un petit peu, mais bon, c'est comme si comme ça. Elle commence à être âgée, entre guillemets. Là, elle a plus de 50 ans. Elle commence à être fatiguée, à moitié retirée de la lutte aussi, entre guillemets. Elle est à Carilrouet, donc dans le sud de la France. voilà, plongée, c'est pas là-bas qu'elle va faire de la lutte, d'autant que, heureusement, comme on l'a dit, les choses ont quand même un peu évolué. En revanche, effectivement, à partir de cette époque-là, il y a quand même un nombre de films conséquents qui reprennent ces morceaux, le The Big Lebowski, Coup de foudre à Notting Hill, Enfer du dimanche, Thomas Crown, il y a les séries Six Feet Under, Inland Empire, Sex and the City, il y a eu en film aussi Les Petits Mouchoirs, Les Noces Rebelles, Watchmen, enfin, il y en a vraiment un paquet où, voilà, elle est devenue incontournable, alors même qu'elle avait été oubliée. Donc, on peut quand même parler un peu de renaissance. Voilà, un peu plus que pour Code François, par exemple.
Après, c'est sûr qu'elle continue à monter sur scène aussi. Hein.
Oui, elle continue les concerts. Les derniers concerts ne sont pas joyeux, on va dire. Quand elle se déplace, déjà, pour venir au concert. Et quand elle joue les morceaux à peu près en entier.
Voilà.
Mais bon, c'est l'âge et la maladie.
Exactement, et la maladie, puisqu'elle décède en 2003, de maladie.
De cancer du sang. La base, on va dire.
Hein. Et que ses cendres ont été dispersées, selon ses souhaits, dans plusieurs pays africains.
Oui. Dans le Libéria, on imagine.
Dans le Libéria, oui, puisqu'il y avait Myriam Makeba dans l'histoire. Donc.
Oui, voilà. Et entre-temps, on va enfin répondre à ton gros dilemme, Ludo. Pourquoi Mandela ?
Pourquoi Mandela ?
Hein,
pourquoi
parce Mandela ? Non, c'est juste qu'elle était à l'anniversaire de Mandela en 98. Oui, ouais. Je ne sais plus l'année exacte.
Oui, c'est 98.
Oui, c'est 98, ouais. Voilà. Tout simplement, donc elle était amie un petit peu pote avec Madiba, donc voilà.
Tout ça pour ça.
Ben ouais, c'est tout ça pour ça.
Moi, écoute, je suis allé à l'anniversaire de Luc, on va en parler chaque émission.
Ben écris une chanson, quoi, fais quelque chose.
Mais je vais y penser.
Ben ouais, ben pense-y.
En parlant de chansons, peut-être donc la chanson la plus connue de
Simone.
On pouvait pas y échapper. On pouvait pas vous priver de ça quand même.
Go.
Shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiles.
something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
Alors, on arrive à la partie compliquée, ces 40 albums. Conseil, allez, qui Luc, conseil, Luc.
Conseil.
Best-of. Ne me sors pas le best-of traditionnel, trop facile. Ça, ah, j'ai grillé les conseils de Fab.
Alors, je vais biaiser en parlant de best-of au pluriel en fonction des périodes, parce qu'ils ont fait des best-of par période. Ça peut être pratique. Notamment pour la période Philips qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est fast en tube, ben, plutôt que d'acheter les, je sais pas, 6-7 albums Philips, il y a des très bonnes compiles de la période Philips, pareil pour Colpix, pareil pour RCA. Après, il y a au moins une compile qui regroupe la totalité de la carrière en 3 ou 4 CD et qui est très bien, donc j'ai oublié le nom, mais bon, qui est très très bien. Et sinon, après, album à album, il y a le premier dont on a parlé tout à l'heure, Little Girl Blue. Au moins un ou deux lives. Alors, il y a ni Nancy Simone à The Village Gate ou à Carnegie Hall, notamment, 62-63. Dans les albums RCA, il y en a beaucoup de biens. Certains peuvent être redondants, mais il y a une anthologie, cette fois, de Nina Simone chez RCA, donc les 9 albums dans un même coffret. Donc il y a tout, comme ça, il y a même des bonus, et au prix d'un album et demi quasiment, donc ça peut valoir...
Pourquoi s'en priver ?
Ah ben voilà, pourquoi s'en priver, même si, bah, du coup, il y a un peu à boire et à manger, parce que quelqu'un qui aime, mais pas énormément, bah, il va se dire 9 albums, c'est un peu trop, surtout pour une seule période. Après la période RCA, c'est pas nécessaire, sauf si vous êtes fan, clairement. Et puis, non, c'est à peu près ça. Après, au niveau des biographies, on a parlé de la sienne, ouais, autobiographie, I Put a Spell on You. Il y a eu un documentaire sur elle qui s'appelait Nina Simone, la légende, qui est sorti dans les années 90. C'est un Français qui l'a fait.
Il y a
fait.
Un film aussi.
Et il y a un film qui est en préparation. Alors, on ne sait pas où ça en est trop, ouais, parce que la production a été lancée il y a quelques mois.
Alors ouais, et tout ce qu'on sait, c'est Zoé Saldana.
Qui aurait été choisie pour le rôle titre.
Je ne connais pas.
Zoé
Saldana a plutôt joué dans des films d'action là, où ça tire dans tous les coins.
Peut-être qu'elle va tirer aussi.
C'est Nina.
Alors après, c'est en cours. On en a souvent parlé. Dans Rock'n'Roll Diaries, on en a parlé pour notamment l'émission sur Johnny Cash, vu qu'il y avait eu un biopic très très bien sur Johnny Cash. Mais souvent, les biopics, c'est des trucs qui mettent beaucoup 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 de temps. On avait parlé dans l'émission d'Hendrix, il y avait un biopic en cours. Bah, il est toujours pas sorti, hein. Il est encore depuis des années avec André 3000. James Brown, il sort actuellement, mais ouais, bon, voilà, il a été lancé il y a peut-être 20 ans déjà.
Il y a des gens comme ça où c'est compliqué.
Voilà, Jeff Buckley, le biopic est en cours à peu près depuis la veille de sa mort. Hein,
donc... a priori, il n'y aurait qu'un projet. Il y a des fois des biopics où il y a plusieurs projets.
Pourrait se faire. Et si ça se fait, on peut s'attendre à ce qu'elle redevienne encore populaire, qu'il ressort des disques, qu'il ressort des machins, etc., etc.
Peut-être que dans le biopic de Nelson Mandela, on verra Nina Simone.
Ou pas.
Ou peut-être qu'ils citeront 48 FM.
Aussi bien.
Ah oui, c'est possible.
On aimerait bien. C'est un appel.
Nelson,
ok.
Nelson, si tu nous écoutes.
Allez, très bien pour cette émission. Alors là, pour la semaine prochaine, on va parler d'une légende. C'est une vraie légende.
On ne parle que des légendes.
Mais celle-ci est peut-être moins connue.
Elle vaut son pesant de plomb.
Ouais, elle vaut son pesant de plomb. Et je pense qu'on va se taper sur le ventre.
Tapons-nous sur le ventre.
En tout cas, on va pas avoir de coup de blues. Ah si, remarque, si, on risque d'avoir un coup de blues.
Peut-être. Stop les indices. Ciao les amis, au mois prochain.
À bientôt.
Pas de la bingo.
way down in New Orleans. I was called a rising star. I've been the run of a many poor boys. And be your God for one. Way down in New Orleans. I was called a rising star. I've been the run of a many poor boys. And me, oh God, for one. I'm gonna tell my baby sister, please don't do like I have done. Please shun that old house in New Orleans. They call the rising sun. I'm gonna tell my baby sister, please don't do like I have done. Please shine that old house in New Orleans. They call the rising sun. Go tell her now. Rock me. Cause my race is almost run. I'm going back to spend the rest of my life beneath the rising sun. I'm going back to New Orleans. Cause my race is almost run. I'm going back to spend the rest of my life beneath the rising sun. Go on back down there. Yeah. Yeah.